fait que la femme met au monde, ils ont fait des fusées, des gratte-ciels, des villes, n'importe quoi.
Mais nous, on ne l'oubliera pas ce soir dans le rendez-vous. En direct sur France Culture, il sera question de tir à la carabine, de domination, de l'innoventura, d'écrivains en colère et même de nana. Avec Camille Morino qui signe la rétrospective Niki de Saint-Phalle au Grand Palais à Paris, programme féministe pour un art violent et joyeux entre tir à la carabine et grosse nana dominante Manu Farine.
Portrait d'une artiste qui disait avoir sur le plan psychique tout pour devenir un terroriste et qui décida finalement d'être une héroïne.
19h30, le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine qui a rencontré pendant le week-end la conservatrice en chef du patrimoine au Centre Pompidou, Christine Massel. 19h35, Denis Lachaud dépasse les bornes avec la pièce Hétéro, l'histoire d'un couple d'hommes qui veut marier leur fils à son chef de service. Un texte féministe, Lucille Como.
Retour sur le parcours d'un écrivain qui se pose la question des dominations sexuelles sous toutes les formes, du théâtre à la littérature jeunesse.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le tout nouveau journal de la culture de Zoé Sfez. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Laurent, bonsoir.
Ça c'est un son, un son du jour.
C'est un son du jour, c'est un beau son du jour, un petit peu en colère comme vous l'entendez. C'est le premier mouvement de la fausse symphonie de Franz Liszt que l'Orchestre Philharmonique de Radio France devait interpréter ce vendredi, salle Pleyel, sous la direction de son nouveau directeur musical, Mikko Franck. Eh bien il n'en sera rien puisque l'orchestre sera en grève. Les musiciens entendent protester contre, je cite, les méthodes brutales employées par la nouvelle direction de la musique à Radio France qui ont forcé leur directeur artistique, Eric Montalbiti, qui était en poste depuis 18 ans, à la démission la semaine dernière.
Très tôt. Je lisais beaucoup, il y avait une bibliothèque chez moi, chez mes parents et même chez...
Alors.
Et on continue avec le dossier du jour, consacré ce lundi à l'éditeur Jean-Jacques Pauvert, qui s'est éteint samedi à l'âge de 88 ans. Éditeur unique et libre penseur, il avait publié le premier l'œuvre intégrale de Sade, ou encore Histoire d'eau à une époque où l'ouvrage, ou plutôt l'outrage aux mœurs, s'applique encore à la littérature.
C'est un joli jeu de mots. Oui, il restera dans l'histoire comme l'éditeur qui a rendu finalement ses lettres de noblesse à la littérature érotique. Vous l'aviez reçu dans le rendez-vous il y a 3 ans, en 2011, pour son essai Métamorphose du sentiment érotique. Et vous lui aviez demandé, Laurent, quand il avait commencé à s'intéresser à cette littérature. Écoutez sa réponse.
Très tôt. Je lisais beaucoup. Il y avait une bibliothèque chez moi, chez mes parents et même chez mon grand-père. J'ai été immédiatement, vous savez, comme beaucoup de jeunes garçons, à 12, 13, 14 ans, on commence à s'intéresser plus spécialement à ce qu'il peut y avoir d'érotique, entre guillemets, dans les textes. Alors, évidemment, après... Je me suis intéressé aux réactions, parce que quand j'ai commencé à parler de certains textes, il y a les réactions des gens. Moi, innocemment, je disais, j'ai lu ça, il a lu ça, mais c'est affreux, ou alors, nous, on est plutôt tolérants. Il y avait un éventail de réactions très intéressant.
Cette posture de libre penseur a été la clé de son succès, un succès fulgurant et unique dans l'histoire de l'édition.
Oui, Frédéric Martin est éditeur aux éditions du Tripode. C'est lui qui, notamment, a publié la dernière édition de Sade vivant, l'un des grands ouvrages de Jean-Jacques Pauvert consacré à son auteur de prédilection. Il considère que le parcours de Jean-Jacques Pauvert, finalement, est sans équivalent.
Il n'y a aucune figure d'éditeur indépendant qui ait autant marqué son époque, parce que ça restait un franc-tireur, il était complètement en dehors du système, c'est un autodidacte qui a commencé dans le monde du livre en étant apprenti libraire à 14 ans, et qui 20 ans plus tard se retrouvait un des éditeurs les plus importants de la place. Donc d'une certaine manière, c'est la quintessence de l'éditeur. C'était un cauchemar pour les contrôleurs de gestion ou les chefs de marketing, cet homme. Il pouvait publier aussi bien la Comtesse de Ségur que le Marquis de Sade, une édition du Littré qui financièrement était un pari fou, ou la première monographie sur Max Ernst. Toute sa vie durant, il n'a publié que ce qu'il avait envie de publier, avec des intuitions qui étaient souvent fulgurantes. Ça a été notamment l'éditeur d'Histoire d'eau. Et Histoire d'eau, c'est quand même 50 ans avant 50 nuances degrés.
Cette confiance absolue dans son intuition va le pousser à publier Sade alors qu'il a à peine 19 ans.
Et que Sade est totalement censuré à l'époque, un acte très courageux qui va l'entraîner dans plusieurs procès qui vont durer une grosse quinzaine d'années. Et un acte qu'il évoquait avec vous justement en 2011, écoutez-le.
Moi, j'avais lu ça. Je fréquentais pas mal de gens au mercredi de Poulan et tout le monde parlait de ça. Alors, on disait tantôt c'est formidable, tantôt c'est très intéressant du point de vue scientifique. Et puis, un beau jour, j'ai dit, écoutez, tout ça, c'est très intéressant, mais où est Sad ? Il faudrait peut-être le republier. Moi, je ne comprends pas très bien à l'époque ce que c'était que Sad. Et alors, tout le monde immédiatement, oh, mais il veut publier ça, mais il est fou, mais c'est vrai, il est très jeune. Bon. Donc, l'idée m'a pourchassé comme ça, puis un jour, je l'ai fait.
À partir des années 70, l'éditeur va disparaître peu à peu au profit de l'écrivain et de l'essayiste.
Et oui, alors que les mœurs finalement se libèrent, Jean-Jacques Pauvert change un peu de rôle, si l'on peut dire. Une forme de paradoxe que nous explique son éditeur Frédéric Martin.
Jean-Jacques m'en parlait souvent. Pour lui, les années 70 correspondent d'une certaine manière à la fois à un dévoiement de certaines idées pour lesquelles il s'était battu, notamment sur la liberté des mœurs, la liberté de penser, et en même temps une accélération du temps. Il sentait que le monde avait changé de rythme. Curieusement, c'est un moment où il va se mettre un peu en retrait dans les profondeurs. C'est le moment où il va commencer à travailler sur sa gigantesque anthologie des lectures érotiques, où il va se plonger dans la biographie sur Sade, qui est quand même un monument colossal. Et en nombre de caractères, grosso modo, c'est l'équivalent de la Bible. Et donc je dirais que sa vie, elle est vraiment en deux temps. Le moment où il est indépendant, dans une époque qui reste quand même très gaullienne et sclérosée, et un moment où tout s'accélère et où tout semble plus facile, et où lui, comme dans un réflexe de protection, va se mettre un peu en retrait pour dire que tout n'est pas aussi libre que ce qu'on voudrait nous faire croire.
Voilà, alors je signale que Laure Adler avait consacré l'une de ses émissions hors champ en 2011 à Jean-Jacques Pauvert, émission qui devrait être rediffusée cette semaine et que vous pouvez d'ores et déjà réécouter sur le site de France Culture.
Quelques réactions de la part de nos invités, Denis Lachaud, Camille Moreno. Denis Lachaud, l'écrivain que vous êtes.
Bah, je dirais que ça inspire la liberté.
Sade, ça représentait quelque chose pour vous ?
Pas vraiment, non.
Histoire de non plus ?
Non, en fait.
Pas tellement cette littérature, en fait.
Non. J'ai pas, en fait, j'étais petit à l'époque où c'était encore caché, pas publié. Et ensuite, non, ça n'a pas joué un rôle important. Je dirais que j'aime entendre, en fait. J'en ai entendu sur scène. Et c'est quelque chose que j'aime entendre, mais je n'ai jamais vraiment essayé de lire ça.
Camille Moreno ?
Moi aussi, j'ai beaucoup lu les deux, Sade et Histoire d'eau. Et je me rappelle, quand j'ai découvert ce livre, de l'ayant lu, de savoir que c'était une femme qui l'avait écrit, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup impressionnée.
Tout de suite, les brèves.
Et l'on ouvre avec le budget de l'INA pour 2015, qui devrait retrouver son niveau 2013, 90 millions d'euros. Je rappelle qu'en 2014, l'INA avait connu la plus grosse baisse de budget de toute son histoire, puisque les subventions de l'État l'avaient ponctionné de 20%. Les personnels de l'INA avaient manifesté pour protester contre cette réduction budgétaire.
Le prix des 5 continents de la francophonie a été attribué à Kamel Daoud.
Il récompense l'écrivain et journaliste algérien pour son roman Meursault contre-enquête. Le Meursault, c'est évidemment le Meursault de l'étranger de Camus, car dans son roman, Kamel Daoud s'intéresse au frère de l'arabe tué par morceaux dans le roman.
Paul Naref dévoile un court extrait de son nouvel album.
Et oui, alors qu'il n'a plus rien produit depuis Kama Sutra en 1990, Michel Paul Naref, exilé aux États-Unis, a dévoilé une vidéo sur YouTube ce week-end intitulée Polna 24, entièrement mélodique. Toujours adepte du mystère, il n'a toujours pas donné de date pour la sortie de ce prochain album, qui serait donc le premier en 25 ans.
Et la dernière ?
Alors, la dernière, c'est l'histoire du parcours de plus en plus sinueux et étonnant de l'acteur hollywoodien Shia LaBeouf. Vous ne le connaissez peut-être pas, Laurent, mais il a commencé enfant dans les
séries
Disney.
Vous êtes sûr de son nom ?
Ah oui, il s'appelle Shia LaBeouf.
Ah d'accord.
À l'américaine, oui, c'est très chic. Moi, je trouve en français, c'est un peu moins marrant. Alors, cet homme
est assez
étrange.
En français, en fait.
Alors lui, c'est assez étrange parce que c'est quand même une grosse star. Hein. Il a explosé dans des blockbusters comme Transformers, etc. Depuis quelques temps, il semble légèrement en crise. Alors, est-ce qu'il en a authentiquement marre du star system et est-ce qu'il veut aller vers l'art, le vrai, ou est-ce que tout simplement il pète un câble, on peut le dire, la question se pose de plus en plus. Tout a commencé à la première du film de Lars von Trier, Nymphomaniac, l'année dernière, porté sur la tête un sac en papier avec écrit « Je ne suis plus célèbre ». Au festival du film de Berlin, il est invité à parler de son film, il se contente de prononcer une phrase d'Éric Cantona, bien connue « Si les mouettes suivent le chalutier, c'est parce qu'elles pensent que des sardines seront jetées à la mer ». Voilà, point. Et là, il quitte la pièce devant les journalistes ébahis.
Mais c'est un performeur, vous n'avez rien compris.
Mais justement, il s'est fait arrêter cet été parce qu'il perturbait une représentation de la comédie musicale Cabaret en hurlant grosso modo « c'est de la merde ». Et ce week-end, on le retrouve en collant violet et débardeur vert. Il a fait 144 fois le tour du Stedelijk Museum, donc le musée d'art moderne d'Amsterdam.
Ah, c'est la performance.
Action présentée comme une performance artistique. Cours, chia, cours. On verra bien où cela te mène.
Des réactions à ce que l'on vient d'entendre?
Bah, je ne sais pas, c'est le retour aux 70s, là.
C'est véritablement ça qui est en train de se jouer. Allez, on commence.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Je trouve qu'il y a une chose qui est arrivée jusqu'à présent, que la femme a tellement merveilleuse possibilité de créer, elle fait des gosses. Donc, les mecs, ils sont tellement jaloux, ils ne peuvent pas piper le fait que la femme met au monde. Ils ont fait des fusées, des gratte-ciel, des villes, n'importe quoi, pour essayer d'oublier que la femme, elle peut créer. Mais aujourd'hui, la femme, elle a envie, par exemple, moi, si, la seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste, c'est d'être enceinte tous les 9 mois. Parce que je suis tellement obsédée avec la création, ce serait la seule chose qui pourrait me satisfaire.
Plateau Héroïne avec vous, Camille Morino. Vous êtes la commissaire de l'exposition Nikit Symphal au Grand Palais à Paris. Nikit Symphal que l'on vient d'entendre dans cet extrait. Une rétrospective énorme qui part des premiers assemblages des années 50 jusqu'au Jardin des Tarots en Italie, auquel elle a consacré 15 ans de sa vie. On y trouve aussi les tableaux tirs, les nanas, les mariés, les prostituées, les sorcières, les déesses, les corps maisons, avec une orientation forte, on va y revenir, faire de Nikit Symphal une artiste féministe. Une redécouverte qui restait à faire d'ailleurs, dites-vous. Il fallait corriger ou réévaluer quoi pour présenter Nikit Symphal? Quels sont les malentendus qui recouvrent son œuvre?
Bah, plutôt que de faire, comme vous dites, une féministe, reconnaître en elle ce qu'elle disait qu'elle était, c'est-à-dire une féministe. Donc le malentendu le plus évident, c'est d'y voir la seule créatrice des nanas, ce qui n'est pas faux. Simplement, les nanas, ce sont des œuvres féministes. Et puis derrière les nanas et avant les nanas, il y a plein de choses. Donc il y avait pas mal de choses à dire et j'ai essayé de les dire en utilisant cet extrait, ces extraits radiophoniques ou télévisuels qui sont formidables. Où de fait, l'artiste fait, à mon avis, des performances. Elle explique son travail de manière très efficace, comme une actrice, et elle fait passer des messages.
Manou.
Comment vous expliquez, d'ailleurs, Camille Morino, qu'elle ait aussi peu intéressé les historiens de l'art? Donc là, il y a eu une biographie toute récente signée Catherine Framblin, mais au fond, elle est quand même passée à côté de l'histoire officielle.
Oui, mais à coup pas d'une certaine manière, parce que moi, je fais partie des historiens d'art qui l'ont loupée pendant assez longtemps. Comme beaucoup d'artistes femmes, elle a été moins montrée, on a fait moins de recherches sur elle. Ça, c'est une histoire que j'ai voulu aussi mettre à jour ces dernières années. Après, je pense qu'elle était tellement radicale aussi qu'elle parlait dans une forme de désert. Enfin, c'est l'interview là, que vous avez passée tout à l'heure, c'est au milieu des années 60. Il n'y a pas encore de féminisme vraiment constitué en France, même pas tellement aux États-Unis. Donc je pense qu'il n'y avait pas vraiment de gens pour l'écouter ou même pour s'en rappeler ensuite.
Pourquoi vous êtes passé à côté justement? Vous dites que vous, comme les autres, êtes passé à côté.
Mais parce que justement, il n'y avait pas ces textes. Nous, les historiens d'art, on a les textes. On commence par ça. C'est en montrant Nikit Symphal à l'entrée de Elle au Centre Pompidou, l'exposition que j'avais faite sur les artistes femmes. Et à force de passer devant La mariée et la prostitution, qui sont deux œuvres que je montre dans l'exposition, je me suis dit, mais c'est des œuvres féministes. C'est la première artiste féministe de la seconde moitié du siècle, c'est évident. C'est les œuvres qui m'ont parlé, en fait.
Denis Lachaud, vous, quelle est votre relation à Nikit Symphal, s'il y en a une? Sachant que vous collaborez par ailleurs avec des artistes, j'ai pu voir ça.
Oui, je la connais assez mal. Je dirais que la première image qui me vient, c'est Beaubourg.
Et, c'est la fontaine.
C'est la fontaine, juste derrière,
avec Tinguely.
Et en fait, je suis assez ravi de découvrir cette dimension féministe, parce que c'est vrai que ça n'est pas l'image que j'en ai reçue, mais je crois qu'en fait, c'est très, très facile de passer à côté de la dimension profonde de ce que peut être le moteur d'un artiste, ce qui fait qu'il va être amené à créer et aller dans un certain sens. On passe très, très facilement, on a très facilement une image fausse, édulcorée, et on ne va pas forcément chercher plus loin.
Alors, la première salle de l'exposition montre ses débuts au milieu des années 50. Elle est mariée à l'époque à l'écrivain Harry Matthews. Elle arrive des États-Unis, elle vient de connaître un épisode psychotique et un internement. On y voit des assemblages, des sortes de tableaux-reliefs avec des objets agressifs qui sont englués dans la matière, des effets de dripping à la Pollock. Quand elle commence, Nikit Symphal, est-ce que c'est une artiste américaine, Camille Morino?
Oui, tout à fait. Enfin, moi, c'est ce que j'essaie de démontrer dans cette salle, c'est qu'elle a au moins une moitié de sa culture visuelle qui est très américaine. Et ça a été aussi, je pense, vraiment oublié ou pas vu. Et ses premiers tableaux le montrent très bien. Elle fait des très beaux Pollock, en fait. Donc, elle a certainement regardé Pollock. Elle l'a complètement compris, en fait. Et elle le copie d'une certaine manière, où elle refait du Pollock mélangé à du Dubuffet Fautrier coloré. C'est juste extraordinaire. Donc, elle est américano-française, franco-américaine.
Manu.
Alors, donc, il y a les nanas, bien sûr, hein, qui sont ces grosses femmes amplifiées, très puissantes, très joyeuses, très dominantes. Mais avant ça, il y a eu les tirs.
Cette jeune femme s'appelle Nikki de Saint-Phalle. Elle appartient à une famille de grands banquiers et a été élevée dans un couvent de New York. Non loin de Montparnasse, elle fait de la peinture à la carabine. Ces bas-reliefs de plâtre renferment différents objets, des œufs, des tomates, des capsules de shampoing, des flacons d'encre, des tubes de couleur. Ils éclatent sous le choc de la balle et des taches de couleur apparaissent à la surface du plâtre. L'artiste arrête le tir lorsqu'elle estime que les transformations obtenues sont belles. Ces transformations vont parfois d'ailleurs jusqu'à la destruction. Tout le monde peut participer à l'opération. Le tireur, qui est souvent l'acheteur, est le seul juge du résultat.
Alors c'est le critique d'art Restany qui va assister à une de ses premières séances de tir, hein, qui va proposer à Nikki de Saint-Phalle d'exposer aux côtés des nouveaux réalistes. Qu'est-ce que lui va voir dans ce geste-là, dans lequel, alors vous voyez tout un tas de choses, hein, contenu politique, anticatholique, féministe, engagé, critique, mais Restany, lui, qu'est-ce qu'il va y reconnaître pour l'intégrer dans le mouvement des nouveaux réalistes?
Restany, c'est un très bon critique d'art qui voit tout de suite la puissance de créatrice de cette femme. Je ne pense pas qu'il y lit forcément du féminisme, justement, mais il reconnaît que c'est une grande artiste. Il reconnaît, je pense, qu'elle est une des premières performeuses, parce qu'à l'époque, il y a Yves Klein qui fait de la performance et point à la ligne, en tout cas en France. Et donc, il a cette intelligence de l'intégrer au groupe. Et de fait, elle va être, comme elle le dit elle-même, la seule femme du groupe et assez respectée par tout le monde, assez célèbre, en réalité, dans les années 60.
Alors, elle va détailler dans un mur de la rage, en 84 points, ce sur quoi elle tire. Et au fond, sur quoi tire-t-elle? De quelle nature est cette violence, littéralement mise en œuvre par ces tirs à la carabine?
C'est une question difficile. plein de choses. Cette liste de 84 points, elle dit un peu l'ampleur des dégâts, d'une certaine manière. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle tire à la fois sur des phénomènes de son temps, comme un artiste engagé aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, il y avait très peu d'artistes engagés. Elle est vraiment une des premières. Donc, il y a quelque chose de politique. Il y a des questions de société, évidemment, la question du rôle de la femme. Mais il y a aussi, je tire sur moi-même, sur ma propre violence. Donc, ça, c'est aussi intéressant, parce qu'il y a évidemment une dimension, on dirait aujourd'hui psychanalytique, en tout cas d'autocritique, qui est toujours présent dans son travail et qui est vraiment importante aussi.
Manu.
De quelle nature diriez-vous qu'est son féminisme, Nikki de Saint-Phalle, alors même que, comme vous l'avez dit, les mouvements étaient assez balbutiants à l'époque?
Je dirais, pour jargonner, que c'est du proto-féminisme, c'est très moche comme mot, mais c'est du féminisme féminin, raison pour laquelle il a d'ailleurs été un peu oublié par les féministes américaines, hein, qui ne supportaient pas justement cette version un peu sexy, provocatrice, vamp de la féministe qu'elle mettait en œuvre. En réalité, quand on regarde un petit peu maintenant l'histoire européenne, on se rend compte qu'il y a pas mal d'européennes féministes féminines, que c'est un peu ce qui distingue le féminisme français-européen du féminisme américain. Mais c'est vraiment 10 ans avant l'apparition des artistes féministes américaines.
Comment vous entendez cette phrase « Le temps est venu d'une nouvelle société matriarcale ».
Ah, ça, c'est de la provoque, c'est absolument génial. C'est une phrase performative. C'est comment je vais faire arriver les choses qui n'existent absolument pas. Et là, je me tourne vers l'écrivain. Parce que c'est qu'il y a un moment où, quand il n'y a rien, il faut avancer dans le rien. Et elle le fait aussi bien avec les œuvres qu'avec les mots. Et pour moi, c'est des citations qui ont valeur d'œuvre d'une certaine manière. Elle avance dans les mots alors qu'il n'y a personne pour l'entendre. Personne ne relève d'ailleurs ces citations-là. Moi, j'étais contente de les retrouver. Je les ai mis dans l'exposition comme des œuvres.
Comment vous regardez ce genre de déclaration de Nina Shaw?
De la part d'une artiste plasticienne, c'est intéressant de voir qu'elle a quand même cette idée de créer le monde avec des mots. Et je m'y retrouve complètement, oui, dans cette idée-là. Créons le monde en mettant des mots qui permettent de créer le monde.
Manu?
Alors, on disait tout à l'heure qu'elle avait été un peu oubliée par l'histoire de l'art, mais elle, Nikki de Saint-Phalle, quel regard est-ce qu'elle a pu porter sur les artistes de son temps? Parce que dans le catalogue, par exemple, il y a un entretien avec Maurice Reims où elle est assez dure avec le côté très cérébral des artistes des années 60. Comment est-ce qu'elle regardait, elle, tout ça? Comment elle a traversé les années 60, 70 et la scène artistique?
Dure, je ne sais pas. Elle était quand même très, très proche de beaucoup de nouveaux réalistes. Bon, évidemment, l'amante amoureuse de femme de Jean Tinguely, très proche de Martial Reiss, de Daniel Spoerry, très proche aussi des Américains. Jasper Johns, Bob Rauschenberg sont ses copains. On les voit dans plein de photos ensemble. Larry Rivers, Ken Holtz. Donc non, elle est vraiment proche des artistes de son temps. Elle connaît très bien l'art pop. Elle va le critiquer d'ailleurs en considérant que c'est un art trop commercial, trop facile. Elle le critique très tôt et ça, c'est assez intéressant parce que ça la différencie là aussi dans un art européen assez critique et politique d'un art américain, un peu, on va dire, un considéré tous un peu comme facile. Je sais pas, elle applique le mot conceptuel, je pense, plus à, justement au genre des hommes hein, qu'elle considère comme étant trop rationnel. Et elle va créer cette espèce d'art féministe du côté de l'irrationnel.
Alors justement, dans cet entretien que cite Manou avec Maurice Reims en 1965, elle déclare « En réalité, je n'ai aucune dent contre les hommes. Je pense seulement, au fond, qu'ils sont des pauvres types, juste bons pour décorer mon lit, cirer mes bottes. Mais pour autre chose, j'en ai pas besoin. » Une déclaration, bien sûr, de provocation, parce que Tinguely, par exemple, son deuxième mari, a été important même dans sa construction. Elle l'avait rencontré impasse Ranson à Montparnasse, juste avant les tirs. C'est très discret, d'ailleurs, hein, la présence de Tinguely dans l'exposition. Pour autant, qu'est-ce que l'un et l'autre vont s'apporter d'un strict point de vue artistique ?
Strict point de vue artistique, énormément, dans les deux sens. C'est-à-dire que lui apprend à faire la structure métallique de ses premières sculptures, justement. Il va continuer à jouer un rôle très discret d'assistant, comme vous l'avez dit. Enfin, il s'efface littéralement devant elle. Ils font énormément d'œuvres qu'il co-signe en collaboration. Et elle, on les voit qui discutent tous les deux. Enfin, ils ont une vraie guerre, discussion, dialogue artistique où ils sont tous les deux au même niveau. Ils se respectent énormément, ils sont très longtemps amoureux et jusqu'à la fin, ils vont s'épauler en fait. Niki de Saint-Phalle va quand même être à l'origine du musée Tinguely à Bâle. C'est vraiment elle qui va porter ce projet, qui va porter la mémoire et l'hommage rendu à Tinguely.
Manou.
Alors comme à tous les invités, Camille Moreno, on vous a demandé d'apporter un son et vous avez choisi celui-là.
Dans un commentaire à propos de votre film Indiasson, vous avez dit ceci, un écrivain c'est intenable, ça fait du mal. Je voudrais que vous m'expliquiez ça.
Ça se fait du mal ou ça fait du mal?
Ça fait du mal. C'est intenable.
D'être un écrivain, oui. On n'est pas là, quoi. Pas de vie. La vie est ailleurs. C'est un drôle de truc, l'écriture. Pourquoi on se double de ça? On se double d'une autre vision du réel. Pourquoi tout le temps ce cheminement de l'écrit à côté de la vie? Et duquel on ne peut absolument pas s'extraire. J'ai beaucoup parlé de ça. Et puis, je ne sais pas ce que c'est, écrire, je ne sais pas.
C'est toujours pas.
Non, mais j'ai beaucoup parlé, croyant le savoir. Puis on me harcelait, alors j'ai donné des renseignements. Mais savoir de quoi ça procède essentiellement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, des gens très très célèbres, pour moi, n'ont pas écrit.
Exemple.
Sartre.
Sartre, comment?
Il n'a pas écrit.
Comment il n'a pas écrit?
Non, pour moi, il n'a pas écrit. Il n'a pas su ce que c'était qu'écrire.
Elle vient de lui tirer dessus. Identification de ce son, Camille Moreno.
Plusieurs choses. D'abord, c'est un moment très important dans ma vie. C'est septembre 1984. J'arrive en Hippocagne à Henri IV. Et je découvre cette femme créatrice. À l'époque, il y en avait assez peu qui passaient à la télévision. Et cette émission d'apostrophe où elle est seule... Marguerite Duras, pardon. Ça a été un grand moment pour moi. C'était une femme puissante, à la fois puissante et vulnérable, et qui, dans l'extrait que j'ai choisi, en plus, tue symboliquement Sartre. Donc, il y a effectivement quelque chose de l'ordre du tir, du meurtre symbolique, mais en même temps, d'une femme qui est absolument remarquable, brillante, qui, pendant tout le reste de l'émission, parle de sa vie amoureuse, de cet amant qu'elle a eu à 15 ans. Moi, j'en avais 17 quand j'ai vu cette interview. Donc, c'est un moment important dans ma vie.
Vous vous rappelez de ce moment aussi, Denis Lachaud ou...
Très vaguement, mais c'est vrai que, enfin, je me souviens de voir cette émission en fait, ouais. Quand même. Moi, je trouve assez remarquable de reconstater à quel point elle savait parler aussi, c'est-à-dire en dehors de ce talent d'écriture qu'elle a, Marguerite Duras sait parler, elle sait utiliser la temporalité de la parole pour fasciner en fait son auditoire, c'est fascinant.
Anne-Ouvraine.
Marguerite Duras justement dit qu'elle a beaucoup parlé croyant savoir à propos de l'écriture. Alors, c'est un petit peu aussi le cas de Nikki de Saint-Phal qui, elle, s'est chargée en l'absence d'appareil critique, de se commenter elle-même.
Absolument.
Beaucoup, et on le voit beaucoup dans l'exposition. Elle a elle-même signé plusieurs biographies, et puis avec une sorte de plan média, si on peut dire, assez soutenu, notamment à la télévision. Quelle Nikki de Saint-Phal veut-elle construire, ou en tout cas donner à voir, hein, médiatiquement en tout cas?
Justement, ce que vous dites est tout à fait juste. Elle a effectivement pallié à l'absence de texte sur elle. Donc elle est dans une position de self-defense, on dirait aujourd'hui. Et je pense qu'elle se pose comme artiste radicale, très clairement, politique, féministe, justement. Et c'est étonnant à quel point on n'a pas entendu ça, alors qu'elle est tellement claire et qu'elle ne parle que de ça. Et comme vous le dites, aussi une femme qui parle des femmes. Il y a aussi ça qui est très très fort, qui parle du genre féminin, alors que ce mot, la théorie des genres n'existe pas du tout. Et donc elle parle de ça, je pense, avec beaucoup de force et de courage, parce qu'encore une fois, elle est la seule à le faire. Et ses interviews, on entend sa voix, mais aussi son corps. Elle pose, elle joue, elle bouge. Enfin, c'est très beau.
Elle s'habille. Hein,
elle s'habille, voilà, très lookée. Passons d'un truc très chic à un truc à la garçonne, d'une émission à l'autre. Donc tout ça, c'est très travaillé.
Alors justement, au milieu de l'exposition, il y a une projection vidéo. Elle est là, ravissante dans un fauteuil aigle. Et elle raconte « Je m'appelle Nikki de Saint-Phal et je fais de la sculpture monumentale ». Eh bien, en quoi cette phrase serait véritablement politique? Qu'est-ce que cette phrase dit d'elle, en fait, Camille Moreno?
Elle explique que l'espace public, c'est un espace masculin. Et que pour elle, l'objectif final et le plus extraordinaire, ce serait d'investir cet espace masculin et de le rendre féminin. Et c'est ce qu'elle va faire pendant toute une partie de sa vie. Elle va créer ses parcs de sculptures, ses sculptures monumentales, dont beaucoup ont de fait la forme de corps féminin. C'est des sculptures rondes, très sexuées, avec des seins. Elle va d'ailleurs vivre dans une maison nana. Elle avait une chambre à coucher dans un des seins et la cuisine dans l'autre. Donc il y a un investissement du masculin, un retournement du masculin vers le féminin qui est tout à fait extraordinaire.
Une dernière question par rapport à une clé de lecture que l'on donne souvent de l'œuvre de Nikki de Saint-Phal, c'est celle du viol qu'elle a subi à l'âge de 11 ans par son père. C'est pas présent dans la chronologie. Est-ce que c'était une clé trop encombrante pour vous?
C'est présent dans la chronologie, mais c'est vrai que je n'ai pas voulu mettre l'accent là-dessus parce qu'elle-même a révélé cet épisode très très tard dans sa vie. Donc je pense qu'elle se doutait que ça allait être une sorte d'écran, ce que c'est devenu. Et donc je pense par ailleurs que c'est, de toute manière, elle aurait parlé de violence, elle aurait été une artiste radicale avec ou sans cet épisode.
Le rendez-vous. Extérieur.
Camille Moreno et Denis Lachaud, on vous retrouve dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Alors ce soir, dans la série Les professionnels de la profession, c'est Christine Massel, conservatrice en chef du patrimoine au Centre Pompidou Manu.
Et qui signe le nouvel accrochage des collections contemporaines du Centre Pompidou, sous le titre Une histoire, art, architecture, design des années 80 à nos jours. Et je l'ai rencontré, c'était pas ce week-end, c'était il y a quelques semaines de ça déjà.
M'aviez bien donc menti. Questionnaire commissariat, Christine Massel, Manu Farine.
L'artiste de votre adolescence?
C'est Jean Tinguely. Je me souviens de machines à dessiner que j'avais actionnées. Et ça m'a incité à aller vers l'art contemporain parce que j'y voyais une créativité, et aussi une force destructrice, une sorte de provocation qui m'a à la fois surprise et séduite.
L'artiste que vous avez fini par aimer ou que vous avez appris à aimer?
Je me souviens par exemple quand j'ai commencé à travailler avec Philippe Parrainot. J'avais eu cette attraction pour son œuvre dans les années 90 à partir d'une pièce qui s'appelait « La pierre qui parle » où en fait il avait installé des jeunes enfants à dessiner autour d'une pierre qui parlait, donc il dessinait la pierre et cette pierre elle parlait avec la voix de Jean-Luc Godard. C'est une pièce qui m'avait intriguée, j'avais pas aimé au sens qu'elle m'a marqué définitivement, mais elle m'avait amené à regarder le travail de Parrainot avec intérêt et c'est ensuite une relation qui s'est développée qui a fait qu'on a travaillé ensemble.
L'artiste qui vous a fait vieillir?
C'est Gabriel Orozco. Quand on a travaillé ensemble au Centre Pompidou, j'ai vu quelqu'un qui a été capable de changer de direction du jour au lendemain pour aller dans une direction plus radicale, qui a amené des pièces qui étaient complètement surprenantes, comme des insectes qu'il avait écrasés avec de la terre dans son jardin l'été. C'est quelqu'un qui m'a impressionné par sa capacité à se réinventer, en fait.
L'exposition que vous auriez aimé voir?
Bah, quand les attitudes deviennent formes, évidemment. C'était l'exposition qu'avait fait Harald Zeman à la Kunsthalle de Berne en 69, qui avait créé une sorte d'émoi dans le milieu artistique, parce que déjà on y voyait énormément d'artistes américains, et donc des artistes qui venaient du minimal, du post-minimal, dont d'ailleurs beaucoup ont cessé d'exercer leur activité d'artiste après. D'ailleurs, Art Press avait fait un numéro très intéressant qui était « Que sont devenus les artistes quand les attitudes deviennent formes ?» Et c'est une question qui m'a toujours fascinée, c'est cette capacité d'entropie, en fait, et surtout de notre propre mémoire défaillante par rapport à l'art et tout ce qui en disparaît comme ça, très rapidement, en raison de notre fascination pour l'actualité. Donc on a oublié qu'un artiste avait disparu et qu'on connaissait très bien il y a 10 ans.
La première œuvre que vous voyez en vous levant le matin?
C'est une sorte de petit musée personnel, on va dire. Là, récemment, un tableau de la Renaissance qui est venu rejoindre cet accrochage bigarré où on trouve aussi bien un Malachi Farel, un Renier Le Ricollet, Henri Sala, que des céramiques italiennes du XVe siècle, par exemple.
Christine Massel, merci.
Camille Moreno, est-ce qu'il y aurait une œuvre ou un artiste ou une exposition qui serait à l'origine de votre parcours dans l'art contemporain ?
Oula, je me rappelle une exposition Bonnard, une exposition sur l'art minimal américain. Et oui, en fait, les photos de Mapplethorpe que j'avais vues très jeune aux États-Unis qui m'avaient énormément frappée. C'est sexe masculin érigé, je les avais trouvées beaux. Très choquant. Je m'étais dit, l'art, c'est ça, c'est cette capacité de transgresser. Enfin, je n'avais pas dit ça comme ça, j'étais trop jeune. Mais enfin, c'était comme une porte qui s'ouvrait.
Denis Lachaud, est-ce qu'il y aura eu, pareil, un auteur ou une œuvre qui serait à l'origine, même si ce n'est pas vraiment le cas, en tout cas à l'origine de ce parcours?
En fait, je pensais à une exposition,
ah oui,
vous parliez d'exposition. Ouais. Et la première exposition qui m'a capturé, je dirais, c'est-à-dire que jusque-là, j'avais le sentiment de traverser des expositions et j'ai été capturé, je ne pouvais plus sortir. C'était l'exposition Brancusi.
Vous savez pourquoi ?
Non, je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'ai compris quelque chose ce jour-là de cet art qui ne passe pas par les mots, justement, qui passe par la forme dans l'espace. Quelque chose qui m'est assez étranger, parce que je ne vois pas les reliefs, par exemple. Je ne vois pas les reliefs.
Et oui, donc, j'ai bien compris. vous ne voyez pas les reliefs.
Ce jour-là, j'ai compris quelque chose de, je crois, de la forme dans l'espace. Et je suis resté jusqu'à la fermeture. Je suis resté 5 heures, je crois.
Vous ne voyez pas les reliefs, ça a une incidence sur votre façon d'écrire ?
Probablement, mais enfin, c'est une longue histoire là. C'est-à-dire que mon rapport aux mots a dû être lié au fait que, notamment dans mon long processus thérapeutique avec la vue, puisque ça a été compliqué, il y a eu toute une période où j'ai été aveugle. Et du coup, je me suis beaucoup plus repéré au son. Et je pense que les mots, à ce moment-là, ont pris une place particulière, etc., etc.
Le rendez-vous, Laurent Goumard.
Plateau Mal avec vous, Denis Lachaud, écrivain, comédien, metteur en scène. Un parcours qui commence à la fin des années 90 avec plusieurs romans, plusieurs livres jeunesse et des pièces de théâtre, notamment Hétéro, publié en 2003 et qu'on peut voir actuellement au Théâtre du Rond-Point à Paris dans une mise en scène de Thomas Condemine. Le titre Hétéro s'écrit sans accent, c'est la racine grecque qui veut dire autre et ce n'est pas le diminutif familier de hétérosexuel. Pour autant, ça se passe dans un monde où il n'y a que des hommes et cette population masculine est séparée en deux. D'un côté, les dominants qui travaillent, qui ramènent le pain à la maison. Et puis de l'autre, les dominés qui enfantent et qui s'occupent du foyer. Hétéro, c'est l'histoire d'un fils, il aura bientôt 40 ans, que ses deux pères, le père et le papa, veulent absolument marier. Et ils choisissent pour lui un prétendant sélectionné par un marieur professionnel. Extrait.
Si je puis me permettre, que fait cet homme, je veux dire actuellement ?
Il travaille.
Il travaille, où travaille-t-il ?
Dans une industrie de pointe.
Et que fait-il ?
Monsieur Négos, mon mari vous demande ce que fait cet homme dans son entreprise. Quelle est sa tâche ? Quel poste occupe-t-il ?
Il dirige cette entreprise.
Pardon ? Je ne vous entends pas.
Managing Director, si vous préférez.
Ah, je vois que nous avons affaire à un de ces hommes modernes qui ambitionnent de s'élever au-dessus de leur cul, pour parler vulgairement.
Nous avons affaire à un homme moderne, je vous l'accorde. Mais un homme qui n'ignore pas sa condition. Qui désire par-dessus tout fonder une famille. Un homme qui saura le moment venu sacrifier sa carrière de haut vol au repos nécessaire à une, voire plusieurs, m'a-t-il assuré, gestations paisibles.
Mais êtes-vous certain, négoce, que cet homme qui occupe ses journées à diriger une entreprise se souvienne de ce corps que le destin lui a donné? Êtes-vous certain qu'il se souvienne de la fonction première de ce corps? Garantissez-vous, négoce, que cet homme moderne laissera mon fils creuser son sillon, s'offrira, acceptera-t-il de recevoir sa liqueur? Cet homme se souvient-il que son corps est une terre en jachère qui demande à être labourée?
Toutes ces questions. Alors à propos des deux pères que l'on entend du personnage principal, vous les décrivez ainsi hein, tout début du texte. Le père, c'est un Jean Gabin de 60 ans et le papa, c'est la version dominée, hein, le papa, c'est un Lino Ventura de 60 ans. Qu'est-ce que ces deux acteurs représentent pour vous, qu'ils soient les référents de ce couple si particulier, Denis Lachaud?
C'est-à-dire que quand vous écrivez une pièce, vous ne savez pas du tout quel rapport vous allez avoir avec le metteur en scène. Surtout que moi, je lui demande de le définir lui-même. S'il veut qu'on se voit le jour de la première, on se verra le jour de la première. S'il veut qu'on travaille ensemble, on travaillera ensemble. Et du coup, je voulais m'assurer qu'il comprenne bien qu'il s'agissait d'archétypes de mâles dans les deux cas. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que d'un côté, les dominants, ça soit des gros mâles et que les dominés, ça soit des espèces de femmelettes, entre guillemets. Il ne fallait pas que les acteurs s'en emparent comme ça. Il fallait comprendre que, justement, on a affaire à des archétypes de mâles de tous les côtés. Et ce qui change entre les deux catégories, c'est le discours.
Gabin étant dominant, Ventura en dominé, pourquoi pas l'inverse?
Oh, je ne sais pas.
Quand même.
C'est peut-être mon imagerie à moi, quand j'avais 15 ans, ou peut-être 12 même, et que je regardais les tontons flingueurs.
Alors on le comprend, le texte est engagé contre les normes sexuelles et familiales. Comment est-ce que ce dispositif uniquement masculin s'est imposé et pourquoi pas que des femmes par exemple?
Ça a été un long processus en fait. J'avais écrit avant une autre pièce qui s'appelait Le lion qui rit et la femme en boîte. Dans cette pièce, je travaillais sur la transmission des rôles par les parents à leurs enfants. Ayant terminé cette pièce, je me disais que j'avais encore un large territoire à explorer sur ce sujet. Et j'ai longtemps cherché un moyen de théâtre pour parler de ça. Et il me semblait qu'il fallait avant tout s'adresser aux hommes, plus qu'aux femmes. Et pour que les hommes entendent quelque chose, il fallait, parce qu'on en était encore là en 2000, mais on en est encore là aujourd'hui, je crois, il fallait non pas montrer des hommes et des femmes, en aucun cas, puisque ça, c'est comme d'habitude. Il fallait trouver un moyen de permettre une certaine identification, donc que ce soit des hommes, et en même temps de leur montrer à quel point quelque chose il y a quelque chose de faux dans l'image qu'on a, nous, hein, les hommes, les femmes aussi probablement, mais en tout cas les hommes c'est certain, de cette chose qu'on a reçue, de cette idée qu'on a reçue d'une manière ou d'une autre, qu'on est au-dessus, quoi. Et donc le fait de mettre uniquement des hommes, je crois, enfin l'idée que j'avais, c'était ça permet de faire apparaître à quel point cette différence est totalement culturelle quand on a appris qu'elle était complètement naturelle.
Camille Moreno, vous qui avez vu la pièce, vous êtes d'accord?
Moi, j'ai trouvé la pièce géniale. D'accord, oui, évidemment. Enfin, je trouve que c'est super d'avoir une pièce féministe juste à côté d'exposition Nikita Saint-Phal. Moi, j'ai noté, étant dans la salle, que les femmes riaient beaucoup plus que les hommes. C'était vraiment... Et ça, c'était drôle en soi. C'était très, très fort. C'est un texte vraiment très fort et qui résonne très, très bien avec l'exposition juste à côté.
Alors justement, autour de ces questions d'altérité sexuelle, de choix de sa sexualité, vous aviez réalisé plusieurs performances avec l'écrivaine Olivia Rosenthal. Par exemple, il y avait un titre « Olivia Rosenthal et Denis Lachaud parlent de l'autre sexe ». À quoi ressemblait cette performance, Denis Lachaud?
Alors, nous nous posions des questions sur le sexe de l'autre. Et nous décidions d'expérimenter un peu. Et donc, plutôt que d'essayer de s'emparer du sexe de l'autre, ce qui paraît être une tâche complexe, on enfilait un tablier, chacun, qui indiquait notre sexe. Puis après, on décidait d'échanger nos tabliers. Donc, avec le tablier, donc avec l'apparence, on changeait d'identité. Donc, je devenais une femme, elle devenait un homme. Bon, ça ne nous convenait plus non plus. Enfin, on cherchait, quoi. On cherchait beaucoup autour de ça. Et surtout, on concluait sur l'idée qu'il n'y a plus de sexe. Et que, de même qu'en disant « il n'y a plus de sexe », on crée un monde dans lequel il n'y a plus de sexe. Enfin, je repense à cette citation de
Nikita Saint-Phal sur la société matriarcale.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on terminait cette performance en disant qu'il n'y a plus de sexe.
Il y avait aussi Olivia Rosenthal et Denis Lachaud dépassent les bornes, mais surtout Olivia Rosenthal et Denis Lachaud écrivains en colère.
Oui.
Vous étiez en colère contre quoi? Quel était l'objet de cette colère?
Nous étions et nous sommes en colère, je crois. C'est plus vaste qu'être en colère contre quelque chose, je crois. C'est vraiment être en colère. Et là, je repense aussi à Marguerite Duras qui disait « c'est intenable ». Pendant qu'elle parlait, je me disais « oui, c'est intenable ». Et en même temps, c'est intenable de ne pas l'être quand on l'est. Pour tenir, il faut l'être. Et je crois que tout ça naît, en tout cas dans mon cas, d'une colère, justement, alors qui est très, très insondable, qui est très profonde, qui vient de loin et qui nourrit. Qui me nourrit au quotidien et qui ne me détruit pas dans la mesure où, justement, je peux écrire. Alors après, on a toutes sortes, cette colère, elle est après nourrie au quotidien par toutes sortes de choses, par les nouvelles qu'on entend, par exemple, de 7h à 7h07. Et puis, ça vient rejoindre cette espèce de chose là qui est à l'intérieur et qui fait que pour tenir cette chose intenable, on trouve un moyen. Il y avait aussi Dépasse les bornes. Alors, Dépasse les bornes.
Denis Lachaud et Olivia Rosenthal dépassent les bornes.
Dans celle-là, on parlait de cette période de notre vie à Olivia et à moi où elle allait à l'hôpital dans les services de gériatrie parce qu'elle travaillait sur Alzheimer. Et moi, en même temps, je travaillais sur la schizophrénie et j'allais dans les services psychiatriques. Et pendant tout ce travail sur la psychiatrie, je m'étais dit que probablement être schizophrène et peut-être être terroriste et être écrivain sont trois réponses à la même question. Alors, il vaut mieux devenir écrivain que terroriste ou schizophrène, à mon avis. Hein. C'est quand même si c'est intenable, plus pratique.
Mais c'est comment ?
Alors, la pièce a été écrite, vous le disiez, dans les années 2000. C'était bien avant les grandes manifestations anti-mariage gay qui vont d'ailleurs reprendre là, dans quelques jours. Comment, selon vous, ce texte, tel qu'il est mis en scène aussi aujourd'hui, entre-t-il en résonance avec ces événements-là ?
Indéniablement, il entre en résonance, puisque je crois que quand la pièce commence, il y a beaucoup de monde dans la salle qui part sur cette piste-là. Après, je ne crois pas que ça tient longtemps, donc ça n'est pas un problème. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a fallu attendre en France, en tout cas, cette chose-là pour que Hétéro existe sur une scène. Puisque donc, ça fait maintenant 14 ans que je l'ai écrite, cette pièce. Elle s'est créée en 2005 au Portugal. Et voilà, donc ça fait bien longtemps.
Elle a été créée en 2012 en France. Hein. Elle est reprise aujourd'hui en 2014 au Théâtre du Rond-Point.
Peut-être qu'il fallait cette espèce de malentendu pour qu'elle puisse exister, la pièce. C'est comme une sorte de porte d'entrée vers une voie de garage, le mariage pour tous.
En 1998, vous aviez publié votre premier roman, J'apprends l'allemand, en 2003, donc cette première pièce. Ça, c'est pour les publications. Ça ne correspond pas forcément au temps de l'écriture. Quand vous avez commencé ce travail d'écriture, c'était du côté du roman ou du côté du théâtre, Denis Lachaud ?
Du théâtre. En fait, de formation, je suis comédien. C'est mon premier métier. Et c'est pendant que j'étais comédien que j'ai commencé à écrire du théâtre. J'ai écrit plusieurs pièces avant de songer même à écrire un roman. Un jour, j'ai eu une idée et je me suis dit, ça n'est pas une pièce de théâtre. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer d'écrire un roman et ça a donné J'apprends l'allemand. Mais jusque-là, j'avais jamais eu l'idée. De même que quand j'ai commencé à prendre mon métier de comédien, je n'avais jamais eu l'idée d'écrire du théâtre. C'est à l'école que j'ai commencé, c'était un exercice obligatoire.
Lucille.
Vous avez découvert le théâtre alors que vous étiez en échange universitaire en Allemagne. C'était quel théâtre ?
Le hasard des rencontres a fait que je suis tombé sur des étudiants allemands en anglistique et ils faisaient du théâtre en anglais. Et donc je les ai rejoints. Donc c'était une compagnie de théâtre amateur universitaire et j'ai participé le temps où je suis resté, c'est-à-dire 6 mois. À leur aventure et c'était une le nom de la pièce me revient même pas, c'est une pièce anglaise et surtout pour moi je dirais que à ce moment-là il s'agissait pas vraiment de littérature en fait d'un choc littéraire, il s'agissait d'un choc d'expression, c'est-à-dire de possibilités. Et là, on revient à cette colère, de possibilité d'exprimer quelque chose. Il y avait un moyen qui se présentait à moi. Et donc, je suis rentré en France, j'ai terminé ma licence pour rassurer ma maman et me rassurer moi-même. Et puis, j'ai commencé à faire du théâtre parce que je voulais essayer ça, quoi. Je voulais essayer de trouver un moyen tenable de faire mon trou quelque part.
En 90, vous fondez votre propre compagnie dans laquelle vous êtes à la fois auteur, metteur en scène et comédien. Le titre de la compagnie est éloquent, c'est Théâtre à Lala. Quel était le théâtre que vous défendiez à cette époque avec un titre pareil pour la compagnie?
C'est Lachaud. Le titre est venu d'un exercice. On, à l'époque, on faisait beaucoup de temps de travail de laboratoire. On cherchait, on était jeunes, on cherchait notre théâtre en fait. Et il n'était pas encore très bien dessiné. Et moi qui viens de la musique, en fait, j'ai fait beaucoup de musique quand j'étais enfant. Je leur faisais faire beaucoup d'exercices de rythme. Et je travaillais beaucoup à partir de ça sur comment, en fait, se trouver sur un plateau au clair avec le rythme général. Et donc... ça passait par tout simplement des là, choses comme ça. Et je leur faisais faire ça pendant des heures, dans le noir même, des fois. Et puis parmi nous, il y en avait un qui était un peu claustrophobe, donc qui avait beaucoup de mal. Et puis donc on en a beaucoup parlé après. Et puis finalement, c'est devenu le nom de la compagnie. Théâtral Lala.
Denis Lachaud, comme tous les jours, nous demandons à nos invités d'apporter un son qui les a marqués. Et vous, vous avez choisi ça. Identification de ce son.
Music for 18 Musicians, Steve Reich. J'ai choisi ça parce que Steve Reich, c'est quelqu'un que j'écoute très très souvent, et ce morceau en particulier, je l'ai écouté en boucle pendant toute l'écriture d'un roman. J'ai écrit un roman entier en écoutant cette musique-là, et je dirais que il y a quelque chose dans cette musique qui me réveille complètement, qui me rend à moi complètement. Et qui me sort suffisamment du monde extérieur, sans vraiment perdre totalement de contact, mais suffisamment pour pouvoir être complètement, je dirais, dans le geste de l'écriture, quoi. C'est un peu mystérieux, je ne sais pas si c'est très clair.
Camille Moreno, pour revenir à la mise en scène que vous avez vue, je sais qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué, vous qui avez un œil sur l'art contemporain. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette mise en scène?
J'avais l'impression d'être dans un tir de Nikita Saint-Phal, parce qu'on est dans un décor noir et blanc. Et peu à
un
peu,
appartement haussmannien, noir
voilà,
et blanc.
Un appartement haussmannien complètement noir et blanc. Les personnages sont aussi grimés en noir et blanc, ils sont habillés en noir et blanc. Et au fur et à mesure du déroulement de la pièce, on a des jets de couleurs qui commencent à apparaître et qui recouvrent finalement cette pièce, comme la couleur sur la toile d'un tableau vierge. Et donc c'est une espèce de... Plus le temps avance, plus cette couleur est violente, plus elle se disperse en jets. Donc les acteurs sont complètement couverts de ça. Et je pense un peu les gens du premier rang d'ailleurs aussi. Mmh. Et du coup, on a vraiment l'impression d'être dans un des tableaux de Nikita Saint-Phal, un de ses tirs, où elle tirait sur la peinture avec la peinture qui jaillissait. Je me suis demandé si c'était un hasard, ou je me suis dit, ils sont remarquables, ces gens de France Culture. Ils ont tout vu, tout compris, tout à l'avance.
Denis Lachaud.
Si c'est un hasard ou pas, ça, il faudrait le demander à Thomas Condemille, le metteur en scène. Pour moi, cette couleur-là, c'est son coup de génie dans cette mise en scène, que je trouve vraiment très, très réussie. Parce que la couleur, dans sa mise en scène, c'est le chaos. C'est-à-dire que c'est ce qui vient détruire la norme et le côté très huilé de cette norme qui fonctionne très bien. Et la couleur, c'est la vie. Du coup, bon, voilà, la vie, c'est le chaos. Et je trouve que c'est génial.
Elle dit.
Quand il n'y a rien, il faut avancer dans le rien. Et elle le fait aussi bien avec les œuvres qu'avec les mots.
Il dit.
Créons le monde en mettant des mots qui permettent de créer le monde.
Eh bien, merci à nos invités. Camille Moreno, l'exposition Nikita Saint-Phal, c'est au Grand Palais jusqu'en février 2015 à Paris. Denis Lachaud et Théo se jouent au Théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 19 octobre. Et je signale également l'apparition du Rayon Fille. Ça, c'est un livre jeunesse chez Actes Sud Junior. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain... Demain, du jazz et écologie de l'attention avec le pianiste Baptiste Trottignon et le professeur d'université Yves Citon. Des annonces, Hippolyte ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Manu Farine, Adrien Nazelli et Hippolyte Babilotte. Journal de la culture Zoé Sfèze, à la technique Élise Le, Pierrick Monsigny, à la réalisation Thomas Beau. Vous pouvez réécouter, podcaster et commenter l'émission sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV.